VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 5 minutes l'Amérique et vous avec John Lyndon, mais tout d'abord les nouvelles. Troisième jour du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. Les avocats de la défense affirment que l'actuel chef d'État de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est emparé du pouvoir par la force avec l'aide de la France. Le point avec Miley Segal.
Monsieur Gbagbo, 70 ans, est le premier ex-président poursuivi par la Cour pénale internationale avec son co-accusé Charles Blé Goudé. Il est inculpé de crimes contre l'humanité. Il avait refusé de céder le pouvoir à monsieur Ouattara, reconnu vainqueur par la communauté internationale à l'élection présidentielle de fin 2010. Il s'en était suivi 5 mois de guerre qui a fait plus de 3000 morts. Les avocats de Gbagbo accusent la France d'avoir mené l'ex-président à la chute en fournissant des armes aux forces pro-Ouattara, malgré un embargo décrété par l'ONU, ce qui aurait permis aux rebelles pro-Ouattara du nord du pays d'améliorer leur progression. Les avocats de la défense accusent le bureau du procureur de peindre un tableau unilatéral et regrettent qu'aucun responsable du camp Ouattara ne soit poursuivi par la CPI. La défense accuse également le Burkina Faso d'avoir mis en place une campagne de recrutement de mercenaires dès 2010 pour ensuite les transférer dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce procès risque de prendre 3 à 4 ans.
Lors de leur sommet du week-end à Addis Abeba, les dirigeants africains ont soutenu une initiative kényane visant à un retrait commun des pays d'Afrique de la Cour pénale internationale qui, selon eux, cible en priorité le continent africain. Les précisions de John Lyndon.
Le constat que nous avons fait a déclaré dimanche le leader tchadien Idriss Déby Itno, nouveau président en exercice de l'Union africaine, c'est que la CPI s'acharne beaucoup plus sur l'Afrique, sur les chefs d'État africains, y compris des chefs d'État en exercice, alors qu'ailleurs dans le monde, beaucoup de choses se passent, beaucoup de violations des droits de l'homme flagrantes, mais personne n'est inquiété. Et le président Déby d'ajouter, selon l'AFP, il y a là deux mesures, deux poids. C'est pour cela que nous avons décidé d'harmoniser notre position en attendant que la CPI prenne la mesure de l'importance de la position africaine sur cette question. Aucune décision légalement contraignante n'a été prise au sommet et il revient à chaque pays africain de décider individuellement s'il quitte la CPI ou non. La Cour pénale internationale a commencé la semaine passée le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, premier ex-chef d'État poursuivi par cette juridiction internationale depuis sa création en 2002. La CPI a ouvert jusqu'à présent des enquêtes sur un total de 8 pays, tous en Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, les troupes gouvernementales ont tué en octobre 2015 une cinquantaine de personnes en les laissant suffoquer dans un conteneur de marchandises placé en plein soleil. C'est ce qu'a établi un rapport d'un groupe d'observateurs internationaux. Tatiana Mosso.
Au Soudan du Sud, des conteneurs métalliques sont souvent utilisés comme cellules de fortune. Dans l'état de l'unité, les températures dépassent fréquemment les 40 degrés. Parmi les autres exactions recensées dans ce rapport figurent des viols, des meurtres, ainsi que la capture et le pillage de barges de marchandises appartenant à l'ONU. L'armée gouvernementale sud-soudanaise n'a pas immédiatement réagi à ces accusations, mais elle a par le passé toujours rejeté des rapports évoquant des atrocités similaires. En janvier, un groupe d'experts de l'ONU a recommandé au Conseil de sécurité de sanctionner le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar pour leur rôle dans cette guerre. Les belligérants n'ont pas réussi à former un gouvernement d'union nationale à la date prévue du 22 janvier. Les rebelles de Riek Machar estimant que le président Kiir avait compromis un pilier de l'accord de partage du pouvoir en triplant unilatéralement le nombre des provinces. L'accord du 26 août est censé mettre fin à 2 ans d'une terrible guerre civile qui a vu les deux parties se livrer à d'innombrables atrocités. Mais les combats n'ont jamais cessé et les belligérants s'accusent mutuellement de ne pas remplir leurs engagements.
Et pour terminer, en RDC, le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement de la révision du fichier électoral pour le 10 février. Cette opération technique pourrait prendre jusqu'à 13 mois, ce qui rendrait presque impossible la tenue de la présidentielle d'ici fin 2016, comme le prévoit la Constitution. Et enfin, en RCA, troisième jour ce lundi de la campagne pour le premier tour des législatives du 14 février prochain. Mais 72 heures après le lancement officiel, les activités électorales sont très réduites dans la capitale. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Salut à tous et merci pour votre fidélité à cette émission de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine. Au micro de présentation, John Lyndon, Joselle Morissin assure la mise en onde. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. La cérémonie des Oscars aura lieu le mois prochain, mais déjà l'événement fait l'objet d'une controverse. Ici aux États-Unis, des figures emblématiques du cinéma ont décidé de boycotter cette cérémonie. Plusieurs acteurs africains-américains, dont Will Smith et son épouse Jada, Spike Lee, Lupita Nyong'o et bien d'autres, ont manifesté leur frustration. L'acteur George Clooney est solidaire de ce mouvement. Le président Barack Obama a fait entendre sa voix dans ce débat, estimant que l'industrie du cinéma devrait chercher des talents et offrir des opportunités à chacun. Accusé à tort ou à raison d'être à l'origine du racisme qui règne depuis des lustres au sein des Oscars, l'Académie a promis des réformes. Pour autant, la question demeure. Pourquoi les Oscars sont-ils si blancs? Ou en d'autres termes, pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de noirs aux Oscars? C'est la question de cette émission d'Amérique et vous. Voilà, vous écoutez l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Et pour nous accompagner au cours de cette émission ce vendredi, nous avons une bonne brochette d'invités. D'abord, Rokaya Diallo. Bonsoir, Rokaya.
Bonjour.
Alors, le sujet de l'Amérique et vous, ce vendredi, a une forte odeur de racisme et vous êtes très active dans ce domaine. Vous êtes très active dans ce domaine, donc, puisque vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment « Racisme, mode d'emploi » paru en 2011. Rokaya, pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas lu le livre, de quoi parlait-il ?
En fait, c'était un ouvrage qui est paru dans une collection de philosophie qui était dirigée par Vincent Mercedes, qui racontait en fait un petit peu comment s'exprimer le racisme au XXIe siècle, notamment en France. Je prends l'exemple de la France, c'est le pays dans lequel je vis et dans lequel j'ai grandi, et qui expliquait de quelle manière le racisme s'exprimait au quotidien à travers des exemples concrets, notamment d'actualité ou de politique.
Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre ce dont vous parlez dans votre livre et ce qui se passe depuis des décennies à Hollywood, parlant notamment du racisme dont sont victimes les Noirs?
Oui, absolument. Parce que ce que je dis sur ce phénomène autour de Hollywood, c'est que le racisme, en fait, qui unit les sociétés occidentales post-coloniales et post-esclavagistes, c'est l'héritage d'un racisme qui a été créé il y a plusieurs siècles maintenant sur la domination et la déshumanisation des personnes noires et qui aujourd'hui a un effet extrêmement fort sur les descendants de colonisés et d'esclaves et les gens qui sont issus aussi de la ségrégation. Donc ça imprègne autant les pays européens que les États-Unis qui sont un pays qui est fondé sur d'abord un génocide, celui des Amérindiens, et puis qui a prospéré sur le dos des Afro-Américains qui ont été minorés pendant des siècles avant d'accéder à l'égalité juridique dans les années 60, mais toujours aujourd'hui sont victimes de racisme.
Voilà, merci Rokaya. Vous restez avec nous parce qu'on a d'autres invités sur ce plateau et une que vous connaissez certainement, Anastasie Tudiech. Anastasie, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel commentaire faites-vous de cette polémique sur les Oscars?
Je pense qu'elle est nécessaire et qu'elle est éclairante sur la route qui reste à parcourir, sur le long chemin vers l'égalité, qui, encore une fois, est un combat qui est certes américain, mais aussi européen.
Alors, un acteur qui s'est distingué l'année dernière, c'est Oyelowo, j'espère que je prononce bien le nom, qu'il m'en excuse. Il a joué dans Martin Luther King, dans Selma, mais il n'a pas pu décrocher un Oscar. Les Oscars, c'est finalement une affaire de talent, d'importance et du message, ou simplement une affaire